Et pour débuter cette émission, nous accueillons Léa au téléphone. Bonsoir Léa.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
D'où nous appelez-vous Léa et quel âge avez-vous?
Alors, j'ai 27 ans, je suis originaire de l'Aveyron, mais je vous appelle de Barcelone où j'habite actuellement.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Léa, dites-moi?
Alors, je vous appelle pour vous parler de mon engagement au sein d'un collectif qui s'appelle Un jour un chasseur, qui a été créé suite à la mort de Morgan Keane, qui était mon ami et qui a été tué par un chasseur dans son jardin alors qu'il coupait du bois en décembre dernier,
le 2 décembre dernier. Ça s'est passé où, ça, Léa?
Alors, ça s'est passé à Calvignac, dans le Lot, donc tout proche de Cajar.
Oui.
Et donc, en plein hiver, en plein confinement, alors qu'il faisait à moitié nuit, dans une journée où il pleuvait aussi à moitié.
Oui.
Donc, avec très mauvaises conditions de chasse. Et donc, après ça, en fait, on a créé un collectif qui a pour but de récolter des témoignages de violences et d'abus liés à la chasse. Et en fait, on les relaie sur nos réseaux sociaux pour porter un peu la parole des victimes de la chasse qui sont très, très nombreuses dans les campagnes et dont on ne parle pas assez.
D'accord. Et je n'ai absolument pas entendu parler de cela, en fait. Ça a été relayé par la presse nationale, ce qui est arrivé à Morgan?
Oui, ça a été quand même... par rapport aux autres accidents de chasse qui ont eu lieu dans les années précédentes, ça a été très relayé. Il y a eu énormément d'émotions autour de la mort de Morgan. On a essayé aussi, nous, au niveau local, de faire pas mal parler de nous. Et puis, finalement, on s'est rendu compte très vite, en fait, en créant le compte Instagram, puis Facebook, puis Twitter, qu'il y avait une vraie demande des gens de s'exprimer par rapport à ça. Et ça a assez vite explosé, en fait. Enfin, on a eu très vite énormément d'abonnés et de gens qui nous soutiennent et qui ont besoin de parler et qu'on relaie leur parole, qui est... complètement annulé et ignoré par l'État et les institutions.
Oui, parce que il est vrai que on va l'évoquer hein, durant cet échange, Léa. Au-delà, tuer des animaux, hein, on va l'évoquer. Oui. Il y a cette notion de danger et de peur surtout, hein, de peur. Des personnes qui se baladent souvent dans les bois, dans la plaine, enfin un peu partout, et qui ne sont jamais à l'abri hein, de plomb perdu ou d'une balle perdue. Qu'est-ce qui se dégage des témoignages que vous recevez, Léa? Est-ce que c'est la peur?
Alors c'est la première chose, évidemment, c'est vraiment la peur d'aller se promener, même des fois, parfois juste de sortir dans son jardin. Il y a beaucoup de gens qui nous disent j'ai retrouvé des cartouches dans mon jardin, de laisser sortir ces animaux aussi dehors parce qu'il y a énormément de là je dis meurtre parce que il y en a énormément qui sont volontaires, d'animaux domestiques, donc de chats, de chiens, de chevaux, de poneys, même de cochons, enfin bon.
Oui.
C'est quelque chose dont on parle vraiment pas assez et qui est pas du tout relayé, ou alors vraiment au niveau local dans un journal, ça va pas avoir une importance au niveau national, alors que c'est des choses qui arrivent tous les jours. Et je pense que le fait que ce soit à la campagne, ça joue énormément, parce que comme on est tous isolés, en fait, les uns des autres, on n'est pas dans une grande ville, et créer un mouvement qui mobilise vraiment les personnes, c'est beaucoup plus compliqué en étant chacun dans son village, où en plus le maire souvent est chasseur, ou les gendarmes sont chasseurs, ou en fait tout le monde connaît un chasseur.
Oui, c'est ça. Je crois que dans votre région hein, du Lot, là, il y a beaucoup de chasseurs. C'est une région très très chasseur en fait, hein, très étiquette chasseur.
Oui, après bon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'autres départements en France qui ont cette étiquette.
Bien évidemment, Mais votre région fait partie des endroits où ça chasse beaucoup.
Oui, voilà. Après nous, c'est vrai qu'on a eu énormément aussi de témoignages du Lot par rapport à la situation et par rapport au fait que on a beaucoup plus entendu parler de cette histoire dans le Lot parce que Morgan vivait dans le Lot et que nous aussi. Donc on a fait un énorme travail au niveau local, mais après, on a des témoignages qui viennent de la France entière. Après, il y a plus ou moins, selon les départements, ça peut être plutôt de la chasse à courre ou plutôt de la chasse comme chez nous, qui est plus, disons, traditionnelle. Mais le territoire français est assez... est chassé.
Je veux dire, j'habite à la campagne, en Normandie, hein, tout près d'Évreux, il y a des chasseurs. Mais j'ai l'impression, me baladant beaucoup, que par rapport à votre région, par exemple, il y a moins de... Alors, c'est de la plaine, c'est plat, hein, beaucoup. oui. du côté de chez moi. Et j'ai l'impression que je vois moins de chasseurs maintenant. Mais bon, peut-être que c'est une illusion, mais j'ai l'impression que je vois moins de chasseurs. Je connais des personnes, et je peux dire des gens que j'apprécie, qui sont chasseurs, et ils savent combien... je ne suis... en tout cas, je n'aime pas la chasse. Je suis contre la chasse. On n'en parle jamais parce que cela peut être un point de discorde. Si vous voulez, je pars du principe quand on a eu un oiseau, surtout. Parce que, bien évidemment, on chasse des lapins, hein, des lièvres, on chasse des sangliers. Et c'est la même chose. Il n'y a pas... la mort d'un animal, pour moi, est la même chose. Je ne tue pas une araignée, moi, vous voyez, donc je suis vraiment respectueux de la vie jusqu'au bout. Mais n'empêche que quand vous avez eu un oiseau, j'ai la chance d'avoir un petit perroquet, et que vous voyez l'intelligence d'un oiseau, l'intelligence, l'âme d'un oiseau, c'est-à-dire combien vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas supporter l'idée qu'on tire sur des oiseaux. On a toujours l'impression que les animaux, ils ne se sentent pas, qu'ils ne se rendent pas compte, mais bien sûr que si, quoi.
Bien sûr. Et puis le problème qu'on a nous, c'est qu'il y a cette idée qui est avancée du coup par le ministère de l'écologie et par l'État en général que la chasse est obligatoire, en fait, qu'il faut chasser pour réguler les espèces pour que la biodiversité continue en fait à bien se porter. Mmh. Et c'est, encore une fois, quand on regarde les chiffres, c'est une idée qui est complètement fausse, et c'est un argument que les chasseurs mettent en avant tout le temps.
Alors dites-moi pourquoi vous dites ça, vous. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, je suppose que lorsque les hommes chassaient avec des arcs, il y avait déjà quelque chose de plus établi, même si, ça reste toujours un combat qui est inégal. Mais bon, avant, on chassait avec des arcs, avec des lances, et on était sur quelque chose de traditionnel, vraiment. Aujourd'hui, ce sont des fusils toujours plus sophistiqués les uns que les autres. En quoi est-ce une ineptie de parler de contrôle de la biodiversité ? Dites-moi, et je vous pose une question de novice total.
Oui, alors tout simplement parce que la majorité des animaux tués, en fait, n'ont aucun besoin d'être, ne sont pas du tout en surpopulation, et au contraire, il y en a même certains qui sont en voie d'extinction, mais en tout cas en déclin.
Les sangliers, dites-moi, parce que j'ai souvent entendu parler des sangliers en termes de contrôle et de régulation de la population des sangliers, qui, selon les chasseurs, c'est nécessaire, et ils rendent presque service à la population en chassant les sangliers.
Alors les sangliers, c'est des chiffres que j'ai du livre de Pierre Rigaud, du coup, qui est un naturaliste qui travaille énormément sur la chasse et qui a écrit un livre qui s'appelle Pas de fusil dans la nature. Et le chiffre qu'il donne, en fait, c'est je sais pas quelle année, parce que le livre est paru il y a pas longtemps, donc c'est une de ces dernières années. C'est 700 000 sangliers tués environ par an en France. On estime à 30 millions d'animaux tués par an. C'est le chiffre officiel, mais en fait, il y en a bien plus parce qu'on ne compte pas tous les animaux qui ont été blessés et qui vont finir par mourir en agonisant dans un coin. Donc, si vous comparez les 700 000 sangliers aux 30 millions d'animaux tués par an, on est à 1% et quelques, quoi. Donc on avance l'argument de la régulation en parlant que des sangliers et qu'on dise il faut qu'on chasse pour tuer des sangliers, ça n'a aucun sens. Après, les sangliers, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais a priori, c'est pas un danger en soi pour la biodiversité, ils représentent plutôt un danger pour les cultures des agriculteurs, mais la majorité des cultures touchées, c'est des cultures la plupart du temps de maïs, et c'est des cultures intensives en fait de maïs qui sont destinées aux élevages élevages de bovins ou d'ovins. Mmh. Donc voilà, après on peut toujours tout un système qui est à remettre en cause, et la question c'est pas juste sur la question de la chasse, ça va bien au-delà en fait, sur aussi nos modes de consommation et en quoi quel est le problème, est-ce que le sanglier c'est vraiment un problème pour
Les modes de consommation, c'est autre chose. Je trouve que remettre ça sur ce terrain-là, si vous voulez, je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que je suis pas spécialement d'accord. Bien évidemment, on pourrait dire plein de choses sur le mode de consommation, mais il y a à droite et à gauche des chapelles que je trouve pour le coup trop extrémistes, qui sont contre déjà manger de la viande et qui mélangent un peu tout, quoi, qui mélangent les chasseurs, les bouchers, et n'allons pas sur ce terrain-là. Moi je suis vraiment sur le terrain de tuer des animaux, de mettre en danger autrui. Est-ce que Morgane, parce que j'ai oublié de vous poser la question, mais est-ce que Morgane militait avant déjà, est-ce qu'il était naturaliste, est-ce qu'il avait à voir avec ce combat, et est-ce que dans ce qui s'est passé, on pourrait penser à carrément un homicide?
Non, alors Morgane, il adorait la nature, il adorait les animaux, il n'aurait jamais fait de mal à aucun animal, et je sais qu'il aimait que les oiseaux viennent dans son jardin, et que justement il ne voulait pas trop qu'on chasse autour de chez lui pour pouvoir écouter les oiseaux, parce que chasseur effrayait les oiseaux. Mais non, il n'y avait pas pas du tout de militantisme ni quoi que ce soit.
D'accord, donc ce qui veut dire que c'est un véritable accident, c'est un coup du sort, que Morgane n'a pas pu, par son positionnement et peut-être par, je dirais, des altercations avec des chasseurs, être la cible de chasseurs, parce que on peut ce soir évoquer l'attitude de certains chasseurs.
Par contre, juste un terme là, c'est bien sûr que c'était pas fait exprès, j'imagine, mais par contre le terme, c'est un terme du coup sur lequel nous on aimerait bien insister pour dire que en fait on peut pas parler d'accident dans ce genre de d'homicide, parce que à partir du moment en fait où on utilise une arme qui est destinée à donner la mort, on pour nous c'est pas un accident. Il n'y a pas le terme d'accident, il normalise et il rend supportable une réalité qu'on n'a pas acceptée dans notre pays au XXIe siècle, en fait. C'est comme si vous disiez, ça rend la chose normale, en fait. Ça rend le fait qu'on puisse mourir par arme à feu aujourd'hui dans son jardin.
C'est fou.
On dit, ça peut arriver, c'est un accident. Non, en fait, on ne peut pas accepter ce terme-là. Et c'est une des choses, je vous le précise, parce que c'est vrai que c'est un mot, on n'a pas d'autre mot en fait. On utilise accident aussi, nous on le met entre guillemets à chaque fois, quand on fait un article ou quand on écrit un communiqué ou un texte, parce qu'on n'a pas d'autre mot, mais il n'est pas approprié pour nous.
D'accord, alors c'est quoi pour vous? Parce qu'on va parler d'un homicide involontaire dans ce cas-là, de quelqu'un qui a donné la mort sans intention de la donner.
Oui.
D'accord. Est-ce que dans ce que vous recevez comme plainte, est-ce que on évoque l'attitude donc de certains de ces chasseurs qui peuvent se croire tout permis, donc quand ils chassent peuvent pénétrer dans des propriétés privées parce qu'ils suivent un gibier à la trace, peuvent pénétrer dans des propriétés privées, être un peu agressif, menaçant. Est-ce que vous recevez ce type de plainte ou de témoignage? Parce que j'en ai entendu parler. Vous, qu'en est-il, vous, par rapport à votre association?
Oui, ça c'est régulièrement, c'est très récurrent en fait. Mais il faut savoir qu'en fait, ils ont le droit de pénétrer dans votre jardin. Ils suivent un animal, justement.
Je peux vous dire que moi,
de l'abattre, en fait.
Celui qui pénètre dans mon jardin avec un fusil pour suivre un animal, je pense qu'il va le faire une fois, et je pense que je vais lui expliquer et lui donner l'envie de plus jamais remettre les pieds dans mon jardin, ça je vous le dis. Mais bon.
Oui, mais je vous crois, mais le problème, c'est que légalement, ils ont le droit. La plupart.
Ah ouais,
oui, en fait, c'est
fou,
la loi sur la propriété privée, elle est un peu perverse, parce que, en fait, il faut que vous déclariez que votre jardin est hors chasse, en fait, que vous fassiez un courrier recommandé, ou alors que vous passiez par un refuge ASPAS ou LPO qui mettent en fait votre jardin ou votre terrain en refuge de vie sauvage pour que le chasseur ne puisse pas pénétrer chez vous. Après, par contre, il y a des distances, des maisons à respecter. Ils n'ont pas le droit de tirer normalement en direction des maisons, etc. Mais si vous ne faites pas la démarche pour dire « je ne veux pas qu'on chasse chez moi », ils peuvent suivre un animal chez vous, ils peuvent pénétrer dans votre jardin si un sanglier s'est blessé, et ils peuvent aller l'abattre, parce que ça, c'est autorisé. Donc, c'est assez... au niveau de la loi, on n'est pas vraiment protégé.
Et mais vous ça, dites que si vous le signalez, ils n'ont pas le droit de rentrer.
Oui, mais la démarche n'est pas forcément facile, en fait.
Ah oui, ah oui. Parce que j'allais donc inciter après... toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent être amenés à rencontrer ce type de situation, de faire la démarche. Oui. Parce que je ne vois pas au nom de quoi vous êtes chez vous, vous avez acheté une terre qui est à vous, ou vous payez des impôts dessus que vous devez entretenir, qu'on vous force à entretenir. Et je ne vois pas en quoi des gens avec lesquels vous n'êtes absolument pas d'accord dans le fait qu'ils aient un fusil et qu'ils tuent des animaux puissent pénétrer chez vous. Je trouve ça, c'est encore une ineptie totale. Mais bon. Écoutez,
oui, complètement.
Je sais que je ne vais pas me faire des copains parce que je sais qu'il y a quelques chasseurs qui nous écoutent, mais peu importe, on peut débattre des choses et ne pas être d'accord. Mon père chassait, mais j'aimais bien le côté chasseur de mon père parce que il m'emmenait à la chasse quand j'étais petit et donc je détestais la chasse parce que passer le coin du bois quand ses copains ne le voyaient plus, il posait son fusil. Il se mettait sa casquette sur les yeux et en fait, il faisait une sieste pendant 2 heures et moi, je m'embêtais profondément. c'était pas un grand chasseur, mon père, mais je me rappelle de la chasse et je me rappelle de battues avec des 150 faisans, perdrix, lièvres comme ça. Mais c'était d'une tristesse, quoi, ce tableau. C'est...
Oui, en plus, ça, c'est des animaux qui sont lâchés pour les tuer, après.
Mais lâchés ou pas, de toute façon, lâchés ou
oui,
pas.
Oui, lâchés ou pas, mais bon, dire qu'on régule et lâcher des faisans pour les tuer après, c'est complètement hypocrite.
Enfin... Je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un souvenir d'enfance avec un faisan, un très beau faisan qui avait été lâché et qui finalement était habitué à l'homme. Et en fait, il était devant nous, il décollait pas. Et il y avait un chasseur qui disait « Mais décolle, décolle !» Il essayait de lui faire peur pour qu'il décolle et pouvoir le tirer dessus. Et le faisan ne décollait pas du tout. Et je pense que là, on a eu affaire à un faisan très intelligent qui s'est dit « Toi, mon coco, je sais ce que tu vas faire une fois que je vais décoller, donc je reste à terre. » Mais j'évoque encore, et je vais peut-être paraître un peu bêta, mais tant pis. Moi, j'ai ce petit perroquet qui sont les oiseaux d'Amérique du Sud, donc qui sont nos piafs à nous, et nos merles, nos mésanges. Parce que malheureusement, y a, dans mon coin, il y a plein de chasseurs qui tuent les mésanges, qui tirent quand ils n'ont pas eu un gibier, vous voyez, en fin de journée, là, papam, ça tire sur n'importe quoi, histoire de tirer. Et bon, c'est assez insupportable. La peur. Est-ce que, dans les témoignages que vous recevez, il y en a quelques-uns que vous pouvez évoquer sur des situations, par exemple, où des gens ont eu peur par rapport à la chasse?
Alors moi, il y en a énormément. Il y en a un qui m'avait vraiment, vraiment marqué à moi personnellement. C'était l'année dernière, donc vers les débuts quand même. Et c'était une jeune femme qui racontait qu'en fait, pour rentrer chez elle, il fallait qu'elle emprunte un chemin un petit peu sombre et l'hiver, il fait demi-tour. Et qu'un soir, en rentrant, elle avait croisé des chasseurs en 4x4 qui lui avaient dit qu'elle n'avait pas le droit d'être ici parce qu'ils avaient chassé le canard alors qu'elle n'avait jamais vu de chasseur dans ce coin et que c'était un chemin public. Et en fait, ils ont joué du fait que ce soit des hommes et qu'ils soient armés pour lui faire peur. Et puis, quand ils ont proposé de la raccompagner chez elle dans leur voiture, ils étaient 4, elle leur a dit non. Et en partant, en fait, ils lui ont dit « Tu sais que c'est pas très prudent de tourner le dos à un homme armé ».
Elle est tombée sur des abrutis, là. Ça aurait été...
c'est beaucoup plus courant que ce que vous pensez, en fait. Moi, celui-là, il m'a marqué parce que c'est significatif, en fait, de plein d'autres témoignages qu'on reçoit et qui sont vraiment, en fait, il y a énormément de situations où les chasseurs, et encore une fois, peut-être que pas tous, mais en tout cas, énormément, un grand nombre d'entre eux jouent du fait qu'ils soient armés, que ce soit des hommes, et pour faire peur et pour intimider en fait les gens qui vont aller à leur rencontre. Enfin, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui est armé en face de vous en pleine nature de lui dire vous n'avez pas le droit d'être là ou vous n'avez pas le droit de tirer dans cette direction ou vous me faites peur. C'est pas si facile que ça.
Moi, je vais vous dire
plainte contre eux encore moins.
Je vais vous dire une chose, Léa.
Où tout le monde chasse.
Je vais vous dire une chose, Léa. Bon, elle est tombée. J'entendais par abruti. Ça veut dire qu'elle aurait très bien pu tomber sur 4 gars un peu avinés. Et ça n'est pas parce qu'ils avaient un fusil que bon. Mais soit.
Mais eux sont armés. C'est ça la différence. Ils sont armés et légalement. Ils ont une arme et c'est légal d'avoir une arme pour eux. C'est ça le problème en fait.
Mais je voudrais bien savoir s'il y a des contrôles anti-alcoolémie aussi. au niveau des chasseurs. Parce que, malheureusement, et ça, ça n'est pas un truc que j'ai entendu, avec mon père, le week-end, le repas du midi des chasseurs, je peux vous dire que ça y allait, la tutute, et que j'en voyais repartir à 2-3 grammes avec leur fusil. Et je pense que cette tradition, elle est toujours là, chez les chasseurs. Donc, est-ce qu'il y a un réel contrôle de ça aussi? Parce qu'avoir une arme, c'est une sacrée responsabilité, quoi. Et lorsqu'on est à 3 grammes, je ne suis pas persuadé qu'on puisse ne pas confondre les choses. Et comme ça a pu arriver à Morgane, parce que j'ai lu dans l'entretien que vous avez eu avec Julia, que Morgane aurait été confondue avec un sanglier.
Alors, ça c'est quelque chose dont nous ont parlé des chasseurs eux-mêmes, et qu'ils appellent l'effet tunnel. Et en fait, c'est un espèce de truc psychologique qui fait qu'ils ont tellement envie de voir un sanglier en battu. C'est des paroles de chasseurs que je vous répète, c'est pas moi. Qu'en fait, ils voient des sangliers partout. Et du coup, c'était pareil. Je crois que Mark Sutton aussi, le cycliste qui a été tué dans les Alpes, c'était en 2000, je sais plus, c'était 2015, 2017, il y a 4 ou 5 ans. Pareil, le chasseur avait dit qu'il l'avait confondu avec un sanglier. Il était sur un vélo. voilà, c'est la même chose. Et du coup, alors, je sais pas, là, pour le coup, je crois que le contrôle d'Acoligny était négatif parce que quand il y a un accident, il y a un contrôle. Mais quand il n'y en a pas, a priori, il n'y a pas de contrôle. Et en fait, légalement, il n'y a pas une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de chasser en étant alcoolisé. Cette loi n'existe pas. Donc, les chasseurs nous disent, oui, mais comme on conduit, si on se fait contrôler, on tombe sous le coup de la loi, comme tous les automobilistes, et donc, on peut nous faire un contrôle d'alcoolémie. Et voilà. Mais en fait, il n'y a pas de réel contrôle. Et du coup, je l'évoque maintenant, parce que je ne sais pas si je pourrais faire après.
Évoquez-la, bien sûr.
Ok. On a lancé une pétition, en fait, sur le site du Sénat en septembre dernier. C'est une pétition en fait qui vise à une modification de texte législatif, et en fait il faut qu'elle atteigne 100 000 signatures avant le 10 mars prochain. Et en fait si elle atteint ces signatures, donc normalement, si en tout cas les sénateurs décident que c'est intéressant, ils en parleront pour proposer une nouvelle loi. Et donc dans les mesures que nous on propose, il y a effectivement ça, donc plus de contrôle non seulement sur le permis de chasse, sur les contrôles d'alcoolémie, mais aussi sur la réglementation des armes, qui est hyper flottante aussi en France. En fait, on nous dit on n'a pas le port d'armes, il existe, la détention d'armes, on n'a pas le droit d'avoir des armes en France. Mais en fait, le permis de chasse, c'est quand même pas très très compliqué à obtenir. Et quiconque a son permis de chasse peut avoir une arme chez soi et donc potentiellement s'en servir. Donc ça, c'est un autre point que nous on trouve complètement aberrant et sur lequel on aimerait vraiment insister, et qui est que politiquement, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça.
D'accord. Donc, nous allons relayer votre appel sur notre groupe de parole Facebook, sur Europe 1. Et vous pourrez, vous qui nous écoutez, prendre connaissance de cette pétition que Léa et ses amis ont déposée. Mort, violence et abus liés à la chasse, plus jamais ça. Vous pouvez bien évidemment la signer. Il faut atteindre les 100 000 signatures pour espérer faire évoluer la loi. Donc nous comptons bien évidemment sur vous. Peut-être que certaines et certains vont me trouver, peut-être pas à mon habitude, mais si, je trouve que sur cette libre antenne, je prends souvent parti, mais peut-être un peu plus que d'habitude. C'est vrai, je ne suis pas anti-chasseur, parce que je trouve qu'il ne faut pas être anti-truc de manière générale, mais voilà, le fait de tirer avec un fusil pour un baltrap, par exemple, je trouve que ça pourrait être organisé pour les chasseurs qui sont en manque de sensations, de précision de tir, mais oui. À partir du moment où on tire sur un animal, on enlève une vie, et voilà, ça ne rentre pas dans ma manière de voir les choses, dans ma philosophie de vie, et rien à voir avec le naturalisme ou le fait de ne pas consommer de viande, parce que je ne mange pas de viande, mais ça n'a rien à voir. Je ne vais pas sur ces terrains-là, mais je trouve que c'est tout de même quelque chose de profondément regrettable, au nom en plus d'une régulation de notre environnement, alors que cet environnement s'est toujours régulé, alors que les hommes chassaient avec des arcs et des flèches, ce qui me semblait un peu plus équilibré comme combat. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Léa, parce qu'on va se quitter dans une minute?
Oui. Juste dire qu'en fait, nous, le but, c'est vraiment de montrer en fait la face immergée de l'iceberg, entre guillemets, non, parce que on nous oppose souvent le fait que les accidents de chasse ont baissé ces dernières années, ce qui est faux parce qu'en fait, quand on compare la proportion des accidents au nombre de chasseurs, ils n'ont pas baissé en fait. Et de montrer qu'en fait, on donne 158 accidents par an en moyenne depuis les années 2000. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il y en a tous les jours. Ce n'est pas forcément des morts, ce n'est pas forcément des blessés graves, ce n'est pas forcément des morts d'animaux. Mais ça reste des choses graves, ça reste des intimidations, des menaces ou seulement des gens qui ont peur de sortir de chez eux et de profiter de la campagne et de la nature. Et nous, en fait, ce qu'on veut montrer... Et
alors, vous savez quoi, Léa, je ne voyais pas que vous alliez faire une conclusion. On va marquer une pause et puis je vous laisserai continuer après parce qu'on doit faire une pause. À tout de suite.
Okay.
Léa, vous avez donc lancé une pétition sur le site du Sénat intitulée « Morts, violences et abus liés à la chasse ». Plus jamais ça. Elle a déjà recueilli 2647 signatures. Mais il y a encore du boulot, chers amis. Non, pardonnez-moi, 23 647 signatures. Ça n'est pas la même chose. Mais il reste encore pas mal de signatures à recueillir puisque à 100 000, on peut espérer faire bouger la loi. Léa, vous étiez en train de conclure, donc je vous laisse continuer à conclure.
Oui, alors, on est à 23 942 maintenant.
D'accord.
Et donc, on est dans les temps pour atteindre les 100 000 signatures avant le 10 mars prochain. Donc, on compte sur la mobilisation de tout le monde pour nous aider et pour y arriver. Et voilà, donc du coup, pour conclure, juste que je voulais ajouter qu'est une des choses qu'on aimerait vraiment montrer, en fait, à l'État et aux politiques en général, en fait, c'est qu'on nous... oppose souvent le fait que les chasseurs représentent un argument électoral important et que donc il faut aller dans leur sens au niveau politique. Et en fait, nous, on veut montrer l'inverse, en fait. On veut montrer qu'on est beaucoup plus nombreux dans les campagnes à souffrir de la chasse 6 mois dans l'année et presque tous les jours de la semaine et qu'on a besoin, nous, d'avoir des mesures fortes qui soient prises en faveur du coup du reste des ruraux et pas et qui ne soient pas destinées du coup à privilégier les chasseurs. Et on voudrait que ce soit un argument électoral de poids et donc demander aux politiques et aux futurs candidats, aux futures élections, de prendre position clairement par rapport à ça et d'aller dans notre sens et de soutenir en fait une énorme partie de la population qui en a marre, en fait, tout simplement des abus et des violences des chasseurs.
Et votre message aura été largement entendu ce soir sur l'antenne d'Europe 1, ma chère Léa. Donc, bien évidemment, on inscrit votre pétition pour que celles et ceux qui nous écoutent ce soir puissent relayer déjà son existence et puis puissent signer. Et puis, je vous souhaite bien évidemment plein de courage à vous et vos amis pour continuer ce travail. Et bien évidemment, un petit mot aux chasseurs et aux chasseuses aussi, puisqu'il y a aussi des chasseuses. Je pense que la consommation d'alcool aussi, peut-être il est bon de faire attention parce que 125 personnes qui chaque année meurent à cause d'accidents de chasse, on parle des féminicides, je crois que c'est à peu près le même, on est dans les mêmes chiffres à peu près.
C'est des accidents, pas des morts.
Ah, ce sont des accidents. D'accord,
cité.
Pardonnez-moi.
Oui,
alors, j'ai envie de dire une grosse
bêtise. Les accidents mortels, c'est environ 20 par an.
D'accord.
Les accidents 125, comptabilisés par la gendarmerie, c'est 158
d'accord,
par an en moyenne.
D'accord. J'avais compris que c'était des morts, donc je me disais, c'est incroyable.
Non.
D'accord.
Non, par contre, les féminicides, c'est 30% des féminicides qui sont commis en France par des armes à feu, qui sont en majorité des armes de chasse, une parenthèse, parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles de l'État là-dessus. Mais c'est encore un autre sujet
Vous pourrez nous rappeler, dessus si vous voulez.
Okay.
Je sens que vous avez des choses à dire là-dessus aussi, donc n'hésitez pas.
Oui, beaucoup.
Bon, très bien. Okay. Eh bien, écoutez, passez une bonne soirée, ma chère Léa. Et puis, je vous en prie. Je vous en prie. Et puis, vous nous rappelez quand vous voulez. D'accord ?
Très bien.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.